RCF. RCF Centre-Val de Loire, émission spéciale. Élections régionales.
Farida Mekdoud, bonjour. Vous êtes tête de liste Lutte Ouvrière pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Vous êtes la seule femme tête de liste puisque Christelle de Crémy est en binôme avec Jérémy Clément pour Démocratie écologique. On est encore loin de la parité, qu'en dites-vous ?
Très loin. Il suffisait de regarder hier le plateau de France 3 et des politiciens masculins pour le constater.
Quel est pour vous, Farida Mekdoud, et pour la liste que vous portez, l'enjeu de ce scrutin ?
Ben, l'enjeu, c'est que les intérêts des travailleurs soient défendus dans cette campagne électorale. Parce que, effectivement, tous les candidats qui se présentent sont pour le maintien de cet ordre social injuste qui engendre inégalité, qui aggrave l'exploitation et qui pousse vers la misère de façon inexorable une fraction croissante des classes populaires et des travailleurs. Voilà, donc des retraités, des chômeurs, que nous ne cessons de rencontrer dans cette campagne en porte-à-porte sur les marchés. Et qui sont tenaillés par l'inquiétude qu'ils ont de l'avenir, quoi. Pas l'avenir lointain, mais l'avenir proche. Comment les jours vont se dérouler ?
C'est la troisième fois que vous êtes candidate pour les régionales. Un sondage récent vous crédite 2% des votes. Quelle est votre réaction à la lecture de ce sondage ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Combative ?
Toujours combative, quoi qu'il arrive. Et j'espère que ce score sera plus fort, le plus fort possible. Je ne me satisfais pas de ces 2%. De toute manière, déjà être présent dans cette campagne est un combat. Et en tant que femme, en tant que représentante du camp des travailleurs. Et la campagne ne fait que commencer. Là, il reste une semaine et on verra.
Donc, comment est-ce que vous expliquez que la classe populaire que vous défendez se tourne massivement vers le Rassemblement national ?
Massivement, c'est pas vrai. Une grande partie s'abstient. Et je peux vous dire d'ailleurs que les abstentionnistes que nous rencontrons, qui au départ n'ont pas envie d'ouvrir la porte, et dès qu'ils nous entendent et qu'on arrive à discuter avec eux, on les convainc, on touche, on fait mouche parce qu'on parle de leur quotidien, de leurs problèmes et du fait qu'aujourd'hui, les travailleurs qui font tout dans la société, on l'a vu pendant le confinement, on a vu que c'est eux qui continuaient à produire, à transporter les marchandises, à soigner, les éboueurs à ramasser les ordures, les agents à assurer, les agents d'entretien à assurer l'entretien de tous les locaux, des transports. On a vu qu'ils étaient essentiels, eux qu'on ne montre jamais. Et les projecteurs se sont détournés d'eux. Et nous, on leur dit justement qu'ils sont tout dans la société. C'est eux qui font tout fonctionner. Ils ont toutes les raisons d'être fiers de leur camp, de leur classe, qu'ils sont utiles et essentiels. Et qu'aujourd'hui, on est victime d'une classe capitaliste de plus en plus réduite, qui, elle, est parasitaire et elle est irresponsable. Donc, c'est cette colère que l'on rencontre, nous, on veut l'exprimer. Et on invite justement tous les travailleurs qu'on rencontre, qui sont abstentionnistes ou même ceux qui s'apprêtent à voter pour le Rassemblement national par inconscience, à voter pour leur camp.
Alors, que feriez-vous localement ? Quel serait votre plan d'action si vous étiez élu ?
Mais écoutez, si j'étais élu, d'abord, je ne sème aucune illusion sur le fait qu'au sein du conseil régional, on puisse jouer un rôle contre le chômage, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que élu, je ferai valoir les intérêts des travailleurs. Déjà, des travailleurs qui dépendent de la région. Je suis enseignante dans un lycée professionnel et un certain nombre de personnels sont embauchés par la région pour des salaires vraiment indécents, pour 1000 euros, 1100 euros, pour un travail justement qui s'est accentué avec le Covid, parce qu'entretenir les locaux des classes des lycées dans l'année qui vient de s'écouler, c'était un boulot de dingue. Et je peux vous dire que les personnels sont très dévoués. Donc là, moi, ça serait directement des augmentations de salaire.
Et puis, donc ce serait votre première décision, augmenter les salaires des...
Oui, on pourrait dire ça. Et puis la décision la plus importante, je pense, ça serait que l'argent public que gère la région, la première décision, ça serait ça, que l'argent public, les budgets de la région... ils servent au service public. On peut embaucher dans les hôpitaux, on peut embaucher dans les lycées. Qu'on vienne pas nous dire que c'est pas de la compétence de la région. C'est des choix, tout ça.
C'est ça le bilan que vous tirez de la mandature sortante ?
Vous savez que ça soit au niveau de la région ou de l'État, tout ça, ce sont des institutions, des machineries qui servent à arroser d'argent public, de cadeaux, le grand patronat, qui toujours s'abrite derrière les petites entreprises, les TPE, les PME, pour dire... mais en réalité, c'est eux qui ramassent la mise, Regardez dans la restauration, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui vont faire faillite. Et par contre, les grandes chaînes hôtelières, c'est elles qui ont ramassé le pactole.
Farida Mekdoud, je rappelle que vous êtes tête de liste pour la liste Lutte ouvrière. Quel enseignement tirez-vous de la crise sanitaire et économique ?
Ben écoutez, la crise sanitaire, ben, elle a révélé, elle a été un miroir finalement de la société. Elle a révélé toutes les inégalités, elle a mis en lumière ces inégalités sociales. Et
À travers quoi ?
Ben, par exemple, je vais vous donner l'exemple des vaccins. Les vaccins, ils ont été mis au point. Actuellement, ce sont des grands trusts de la pharmacie comme Pfizer, Moderna, etc. qui en profitent, et Sanofi qui va faire ses futurs vaccins. Mais c'est le fruit d'un travail de chercheurs, et pas d'une année, mais de décennies. Et ces chercheurs, quand ils sont allés travailler, chercher sur ces vaccins, l'ARN messager par exemple, ils l'ont fait par dévouement, par goût de la recherche, pour aider l'humanité à avancer, à se soigner, à progresser.
C'est plutôt positif, ça.
Ça, c'est positif. C'est ça qui me rend optimiste. C'est qu'en réalité, eh ben, le travail humain, tous ceux qui, les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs, tout le monde essaye de mettre le meilleur de lui-même pour faire avancer, pour contribuer à la société. Ça, c'est positif. C'est ça qui me fait dire qu'on peut changer la société. Mais par contre, ce que je constate, c'est que le travail humain, intellectuel ou manuel, peu importe, il est détourné de son but. Finalement, eh bien, il devient propriété privée des grands trusts qui en font ce qu'ils veulent et qui décident le prix, les tarifs. Regardez le prix du Pfizer. Regardez les marchandages qu'il y a eu entre l'Union européenne et les différents fabricants. Bon, eh ben, ils ont imposé leurs lois, ils ont imposé leurs prix. Donc, c'est scandaleux. La pandémie, c'est universel par définition, que je sache. Si on veut s'attaquer à cette pandémie et qu'on ne soit pas menacé par des variants et puis d'autres maladies qui peuvent surgir, ben, il faudrait agir d'urgence au niveau mondial et que les vaccins soient produits à prix coûtant et que le fruit de la recherche de chercheurs du monde entier y bénéficie à toute l'humanité. Et ça, on se heurte à quoi ? On se heurte à la propriété privée des moyens de production, que ce soit dans le domaine de la pharmacie ou d'autres, et il faudrait les exproprier.
RCF Centre-Val de Loire, émission spéciale, élections régionales.
Que pensez-vous du plan de relance des aides apportées aux entreprises dans ce contexte de pandémie ?
Ben, ce plan de relance, ben, il est bidon, excusez-moi. C'est un plan de sauvegarde des profits. Ce n'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a eu 1 million de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Et les chômeurs qui ont perdu leur emploi, au mois de juillet, il y a une réforme de l'allocation chômage qui va les pousser encore inexorablement vers la misère. Ceux qui touchaient 900 euros vont toucher 600 euros. Donc c'est un plan de sauvegarde des profits, avant tout. Des grands groupes, avant tout. Pas des travailleurs, pas des retraités. La réforme des retraites revient sur le devant de l'actualité. Comme si déjà les retraités arrivaient à s'en sortir.
Alors là, on n'est pas sur un sujet proprement lié aux compétences de la région.
Alors, je vous l'accorde.
Sur l'écologie, quel est votre cap, Farida Mekdoud ?
Alors l'écologie, ben oui, c'est un sujet sérieux qui m'importe parce que on peut pas vivre dans une planète en bon état si la société est en mauvais état. Et aujourd'hui, la société est en mauvais état. Donc les deux sont liés, c'est indissociable pour moi.
Et que feriez-vous ?
Eh ben, déjà une transparence, hein. Une transparence et un contrôle des travailleurs sur l'économie. Aujourd'hui, si vous avez par exemple connaissance que votre entreprise pollue et que vous divulguez l'information, vous pouvez être condamné pour violation du secret des affaires. Voilà. Donc, pouvoir divulguer l'information, pouvoir contrôler, pouvoir communiquer, c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai aussi pour l'économie. Il faudrait savoir où va l'argent, à quoi il sert.
Alors, je voudrais aussi aborder avec vous la question des transports, qui est l'une, pour le coup, des compétences de la région. Comment comptez-vous améliorer le réseau de transport en commun au sein de la région ? Est-ce que vous souhaitez maintenir la gratuité pour le Rémi, par exemple ?
Ben, se déplacer, c'est essentiel. C'est essentiel quand on est un travailleur. On est condamné toujours à se déplacer dès qu'on perd son boulot. Puis même quand on est un chômeur, il faut se déplacer pour se présenter. Donc oui, ça devrait être gratuit, les transports, et pris en charge par le grand patronat, parce que c'est lui qui absorbe toutes les richesses. Donc il n'y a pas de raison que ça soit encore pris dans le porte-monnaie des travailleurs. Et puis les transports, ils ne devraient pas être soumis à la rapacité des capitalistes. Hein. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est le cas. On nous parle beaucoup, en parlant d'écologie et de transport, parce que c'est un peu lié, on nous parle beaucoup du train, Mais il y a des lignes secondaires, des TER qui ont été supprimées entre Loches et Tours, ou qui sont quasiment insuffisantes, par exemple, ou la fameuse ligne Chartres-Orléans. Eh ben, c'est sûr qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée à Chartres. Franchement, j'aurais eu un
c'est
train,
pas simple,
j'aurais été contente. Je peux vous dire, je me suis trompée de route en plus.
Est-ce que vous seriez favorable à un aéroport en plus en Centre-Val-de-Loire?
Bah écoutez, là-dessus, je prétends pas avoir un avis. Franchement, je m'abstiens parce que bah, pourquoi pas, il faut voir s'il y a des usagers. Je ne suis pas contre les transports aériens par définition, quoi.
Comment comptez-vous soutenir la vie associative sur le territoire?
Bah, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui ont vu leur budget supprimé, alors qu'ils sont essentiels, qu'ils ont joué un rôle. Par exemple, il y a beaucoup de services publics qui étaient fermés pendant le premier confinement. Bah, il y a des associations qui distribuaient des livres scolaires, qui donnaient des livres aux enfants, qui ont continué à faire leur travail de militants associatifs, parce que c'est ça, les associations, c'est des militants associatifs. Et donc, moi, je serais pour qu'il y ait un maximum de moyens qui leur soient attribués, bien sûr.
Une dernière question, quelle place pour le secteur de la culture dans votre programme et plus largement, est-ce que vous souhaitez développer le tourisme en Centre-Val-de-Loire?
Alors vous voyez, je fais une différence entre le tourisme et la culture. Justement, la région dit, la culture, notre budget c'est ça. Et en réalité, quand on regarde de plus près, le budget il va plus au tourisme qu'à la culture, qu'aux artistes. Donc moi, ce que je vois, c'est que les intermittents du spectacle, les artistes, ils ont payé durement, très chèrement la crise sanitaire. Mais ils étaient déjà très, très en difficulté avant cette crise sanitaire. Parce que la précarité, c'est la loi, c'est la règle. C'est insupportable. Parce que quand on est un artiste, il faut en même temps créer son œuvre, en même temps la vendre, en même temps avoir tout un travail administratif. On veut qu'ils nous rendent la vie belle, mais à eux, on leur fait une vie dure.
On va se projeter un petit peu. Quelles seraient les alliances possibles pour Lutte ouvrière au moment de l'entre-deux-tours?
Alors là, je vais vous dire une chose. Il n'y a qu'au premier tour que le camp des travailleurs sera représenté. Après, ça sera uniquement des candidats qui, d'une manière ou d'une autre, vont mener des politiques d'austérité, vont justifier d'arroser le grand patronat. Donc
pas d'alliance possible pour vous.
Je ne vois pas quelle alliance sera possible. Et je ne fais pas le deuxième tour avant le premier, en tout cas.
Merci Farida Mekdoud. Je rappelle que vous êtes tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains.
Je vous remercie de m'avoir accueillie.
RCF Centre-Val de Loire, émission spéciale, élections régionales.